temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Il y a près de 50 ans, on le voyait déjà dans le monde de la chanson avec un duo appelé les Alexandrins. Au milieu des années 70, sa chanson « Vivre en amour » devient un méga succès qu'on fredonne encore. On peut considérer cet auteur-compositeur-interprète comme ayant été un symbole de la contre-culture, ayant réussi à passer sans retenue de la balade au rock, du country au folklore, du swing au blues, et à consacrer ensuite l'essentiel de son temps à la composition de thèmes musicaux destinés au cinéma, à la télévision et aux messages publicitaires. Il nous revient avec un nouvel album, « Le Gala », et ce gars-là, c'est nul autre que Luc Cousineau. Bonjour à vous.
Bonjour.
Oui, c'est un projet un peu fou, ce gars-là.
Ouais, ben je crois que chaque album a un petit côté fou. Particulièrement maintenant, c'est presque pas rationnel de faire un album de nos jours. Il faut vraiment avoir la passion. Faut vraiment avoir le besoin d'écrire puis avoir une gestation qui est prête à faire un album. Mais si on regarde ça rationnellement, avec le changement dans toute l'industrie, on pourrait possiblement décider de ne pas en faire un album. Alors, faut vraiment avoir cette vocation-là, si je peux employer ce terme.
Mais Dieu sait que Luc Cousineau, dans le paysage musical québécois, ça a été un grand bonhomme. D'abord, un grand mélodiste. Je disais en présentation, près de 50 ans, parce que vous avez commencé avec les Alexandrins en 65 ou 66?
66.
Ça passe vite.
Ah, oui.
Mais vous avez toujours été présent, parfois de façon intermittente, mais toujours présent.
Oui, c'est drôle parce que j'ai analysé ça à un moment donné. Je me suis dit, dans le fond, j'ai piloté ma carrière d'auteur, compositeur, interprète, bien maladroitement. Parce que, au départ, je n'aurais jamais cru que j'aurais fait de la publicité. Quand, en 69, j'ai eu un coup de téléphone d'une agence de pub me disant « On veut prendre les copains », ma chanson qui voulait très bien pour faire une pub. J'ai été, là, mais froissé et insulté, là.
Et oui, parce qu'on regarde la publicité avec dédain.
Absolument. Moi, je faisais la chanson. Mes maîtres, c'était Brel, c'était Brassens, c'était Bécaud, c'était bon, tout ça. Et les grands chansonniers de chez nous aussi, à l'époque. Et mon père, dans sa sagesse, me dit, Luc, genre, j'avais refusé, là, à l'agence de publicité. Il y en était pas question. Il m'a dit, mais pourquoi tu leur suggères pas de faire un pastis, toi, de ta chanson? Et je me suis dit, c'est pas bête. À ce niveau-là, là, je trouvais qu'il y avait un compromis qui était intéressant. Au niveau pécunier, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait rapporter, ça. Et j'ai fait, effectivement, un pastiche de Les Copains. Et c'était pour Canada Dry et tout. Je suis allé leur porter ça. Ils ont été emballés. J'ai fait un arrangement. On est entré en studio. Et quand j'ai eu les premiers chèques, je me souviens, je suis arrivé chez moi. J'ai dit à Lise, qui était l'autre moitié des Alexandrins. À l'époque, j'ai dit, je pense que je viens de trouver le moyen de faire les disques comme je veux, quand je veux et à la manière que je voudrais.
L'eau du robinet venait de s'ouvrir, là.
Venait de s'ouvrir. Je me suis dit, on a plus à... Alors, ça a fait en sorte que j'ai un petit peu mal dirigé ma carrière parce que je versais beaucoup là-dedans aussi. Puis ça faisait mon affaire parce que j'apprenais beaucoup. On demandait beaucoup, hein, au niveau de la pub, il faut que ce soit dans 2 jours, dans 3 jours, écrire les arrangements et tout ça, composer rapidement. Alors, évidemment, tu sais, je versais... C'était les vases communicants, tu sais. Je faisais de la pub pour pouvoir me payer mes albums. Puis ici, à la radio, ça faisait pas leur affaire. J'avais mes pubs, puis bon.
Alors, les Alexandrins, les copains, c'est milieu des années 60, mais milieu des années 70 arrive un méga succès qu'on entend encore parfois à la radio, qui a servi aussi à de nombreuses publicités. On parle bien sûr de « Vivre en amour ». Et vous me disiez que ce n'était pas au départ une chanson, c'était un instrumental. Si vous me permettez, Luc, on va d'abord l'écouter. Okay. On va se remettre dans le bain.
D'accord.
Et ensuite, vous me rappellerez cette anecdote. Alors, « Vivre en amour », Luc Cousineau.
Vivre en amour, tous les jours, s'aimer tout le temps. Du moment que l'on sait que la vie se vit sur la terre sans frontières. Universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître beaucoup mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est pas jeu d'enfant. Tout serait facile si demain les grandes villes devenaient pour un instant, un jardin de printemps. Oui.
tellement facile qu'à s'aimer, que se le dire tout serait, et ce moment paradis de beau temps. Vivre en amour tous les jours, s'aimer tout le temps, du moment que l'on sait que la vie se vit sur la terre sans frontières universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître beaucoup mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est pas jeu d'enfant. Les longues semaines deviendraient des jours de fête pour tous ceux qui ont 20 ans dans leur cœur en dedans. Loin de nos contraintes, on pourrait vivre sans crainte dans l'amour qui est tout présent tout en nous. Simplement vivre en amour tous les jours, s'aimer tout le temps, du moment que l'on sait que la vie se vit sur la terre sans frontières universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître beaucoup mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est pas jeu d'enfant.
Là, je sens que ça va nous trotter dans la tête encore toute la journée, cette chanson.
Oui, elle a cette qualité-là. Hein?
Quelle belle chanson! Simple!
Simple.
Et pourtant, vous me disiez que ce n'était pas au départ une chanson.
Non, parce qu'en 76, moi, j'ai fondé une étiquette de disques qui s'appelait, qui s'appelle toujours les Disques Airedale. Et mon intention était très simple. Je voulais, bon, je faisais, je sais pas, 5 albums, je crois que j'avais fait les Alexandrins, Luc Élise, bon, des chansons, on avait fait beaucoup. Puis je me disais, comme j'étais un musicien quand même, à la base, je me suis dit, si on avait une étiquette de disque qui pouvait promouvoir les musiciens, compositeurs de chez nous, qui allaient vraiment un endroit pour pouvoir publier leurs trucs, je me suis dit, je vais le faire, mais je vais commencer par moi en faire un. Alors, j'ai fondé la compagnie et j'ai écrit, j'ai commencé mon album instrumental. Puis c'est ça que je racontais. Moi, la façon que je fonctionnais, on entrait en studio avec guitare, basse, drum, piano, deux guitares, puis on faisait nos pistes de base. Et par après, en studio, je chantais la mélodie, puis on faisait les arrangements par la suite, dans les semaines qui suivaient. On revenait avec les violons, les vents et tout et tout. Et on sort du studio, tout est fini, il est 2h du matin. Mon guitariste, Red Mitchell, pour ne pas le nommer, me dit, Luc, la balade, la fameuse balade, on l'a oublié. On l'appelait la balade. Ah ben, on rentre en studio, remonte les drums et tout. Et puis, je chante les la-la-la sur la mélodie. La-la-la-la-la. Et là, immédiatement, des gens alentour qui étaient là me disent, Luc, c'est une chanson, tu devrais... Bon. Et dans la nuit, il y avait Roger Magnan qui était là. Dans la nuit qui a suivi, on se tourne en studio le lendemain, puis il arrive avec un texte qui s'appelait « Universellement ». On a travaillé un peu sur le texte. Et puis, c'est devenu Vivre en amour et c'est devenu le succès tellement inattendu.
Parce qu'on n'a pas l'impression qu'on vient d'écrire un tube, là.
Si on le savait, ça serait tellement formidable. Tu sais, mais on ne sait pas. C'est sûr qu'un coup, qu'elle est, un coup la chanson finie, on avait un pouls là, qui nous disait « Ouais, je pense qu'il y a quelque chose là. »
À quoi vous associez justement le fait qu'une chanson comme celle-ci puisse encore aujourd'hui être... acceptable, parce qu'elle a traversé tous les courants.
Ah oui, 25 000 passages et plus à la radio, là, classique de la Socan. Je l'ai chanté. Des fois, je me souviens, au début des années 2000, il y avait des enfants devant moi, là, des jeunes, puis j'y voyais chanter tous les mots. Ils connaissent la chanson. C'est vraiment un héritage des parents aux enfants. Et bon, cette chanson-là fait partie du patrimoine de la chanson québécoise. Puis on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas de recette.
C'est probablement que tout était bien fait.
Oui.
Tout était comme correct, à la bonne place. Le petit solo d'harmonica. Ma fille qui se faisait des la-la-la à la fin de la chanson, qui a maintenant 46 ans. toute cette une production juste au bon moment. Les gens l'avaient besoin. C'était les Olympiques. Hein?
Oui.
En vivant l'amour tous les jours, s'aimer tout le temps. Oui. Puis c'était mondial.
Et là, c'était jovialiste aussi, parce qu'il y a beaucoup d'espoir dans cette chanson, Vivre en amour. C'est pas une chanson triste, au contraire, c'est une chanson qui nous rend de bonne humeur, qu'on aime écouter le matin, qu'on aime écouter aussi le soir.
Oui, c'est ça. Ben, y avait, déjà, là, on abattait les frontières dans le texte.
Voilà.
C'était vraiment mondial. Là, y avait...
Ben Luc, on va revenir 10 ans plus tôt. Là, on retourne aux Alexandrins. Vous avez évoqué tantôt Les Copains, qui a servi... vous avez fait un pastiche pour une publicité. Mais on va écouter l'original.
Ah, oui.
Avec, bien sûr, Lise Cousineau, de son vrai nom, Lise Vachon, je crois.
Parce qu'on était mariés.
À l'époque. Ouais. Et c'était ce duo qui portait le nom des Alexandrins, qui a connu une belle époque dans les années 60. Et ça a été probablement le grand tube, peut-être, des Alexandrins, Les Copains. Il y en a eu d'autres.
Il y en a eu d'autres. C'est parce qu'on a changé le nom. On est devenus Les Qu'Élise. Il y a eu Angela, mon amour, un peu plus tard, qui a été très, très gros aussi. Mais Les Copains, c'était en tout cas le début populaire des Alexandrins. Ça a marqué beaucoup. Ouais.
On s'est vite connus comme ça, Les Copains. On s'est tout de suite plus à oui, Les Copains. On a parlé jusqu'à 6 heures du matin. À propos de nous, de tout et de rien. On se retrouvait le soir, Les Copains. Sans ne jamais savoir pourquoi, Les Copains. Mais quand arrivait les départs, c'est certain. Chacun le savait, mais ne disait rien. Oui, Les Copains. Aujourd'hui, Les Copains. On ne se laissait plus, ah oui, Les Copains. Les nuits trop courtes s'envolaient, Les Copains. On aimait toi, aimait ta femme, mon copain. On s'en rappelle à la lumière du matin. On se donnait des rendez-vous, Les Copains. Et oui, on avait tous les jours, Les Copains. Et l'on ouvrait en nous de nouveaux chemins. Que l'on traçait, oui, traçait de nos mains. Oui, Les Copains. Non, Les Copains. Non, pour demain. Aujourd'hui, Les Copains. Un soir, nous étions à partir pour très loin. Vous vous plaisiez, mais ce n'était pas pour rien. Le cœur serré, ému, vous étiez inquiet. Il fallait partir, oui, il le fallait.
Les Copains, les Alexandrins, et un des membres de ce défunt groupe, Luc Cousineau, est avec nous. Et puis là, on va venir maintenant dans les années modernes, votre dernier album. Ça, c'est toute une histoire. Parce qu'au départ, vous ne vouliez pas que l'album, on sache que ce serait un album de Luc Cousineau.
Oui. C'est assez particulier. Évidemment, comme je disais précédemment, ma carrière ayant eu des... Je ne pourrais pas dire des hauts et des bas. C'est que je m'en occupais. sporadiquement de ma carrière d'auteur, compositeur, chanteur. Là,
côté bohème, quoi.
Oui, j'avais un côté bohème, puis j'avais d'autres choses à faire. Je faisais mes thèmes d'émission, je faisais mes d'autres musiques, les commerciaux et tout. A fait que quand je revenais avec un album, à chaque fois, j'avais toujours un travail de remettre tout ça sur le métier, puis au niveau de la promotion et tout. Et là, évidemment, les années passant, quand je suis arrivé à cet album-là, en studio, on faisait des écoutes déjà, quand j'avais 2-3 chansons de fête assez bien avancées. J'ai demandé à Samuel Bus, les gens qui m'entouraient à ce moment-là, de faire écouter l'album à des gens et du métier et des gens pas du métier, avec le nom et sans le nom. C'était vraiment comme ça. Et c'était remarquable comment c'était différent quand on mettait le nom.
En quoi?
Les chansons étaient plus accepté sans le nom. Particulièrement,
c'est curieux.
Particulièrement chez les gens du métier. Particulièrement parce que là, il y avait une identification de style, d'époque, de réputation. Et à partir du moment où on enlevait le nom, la chanson volait de ses propres ailes.
Iriez-vous jusqu'à dire qu'il y avait une forme de rejet par rapport à ce que pouvait représenter Luc Cousineau?
Je pense que oui.
C'est peut-être horrible.
Pas un rejet, oui. C'est un peu... Peut-être pas un rejet, mais un jugement.
Oui.
Un jugement. Puis un jugement faussé, dans le fond. Puis je pense
mais c'est
que
un
ça
jugement
soit...
implacable.
Implacable. Ouais. Je me demande si. Je ne crois pas que ça soit intentionnel, je ne le sais pas. Sauf qu'on s'est rendu compte et je le flairais, ça. Je le flairais vraiment. Et puis quand j'ai parlé, je me suis dit, puis si on enlevait le nom vraiment, étant donné qu'on a des réactions tellement différentes, si on enlevait le nom et qu'on y allait carrément avec un nom de plume, bon. Là, on se disait, oui, peut-être. Puis avec un ami, dans un resto, à un moment donné, on jasait de ça. J'ai dit, je pense que je vais essayer de me cacher. Je voudrais que les gens écoutent vraiment le contenu, non le contenant, qu'on puisse être vraiment juste sur les chansons. Parce que j'étais content de ce que je venais de faire.
Avec raison, parce qu'on va entendre une de ces pièces.
Oui.
Vous qui êtes à l'écoute, vous allez découvrir un Luc Cousineau, j'allais dire gaillardi, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de recul aussi sur ce que vous avez été. La prochaine et la première qu'on va entendre de cet album, elle a pour titre « Il n'est jamais trop tard ». Et vous chantez « Je n'ai vraiment pas vu passer le temps. Je courais plus vite que le vent. Aujourd'hui, tout s'éclaire, je me lance un SOS. Adieu l'homme d'hier. Changement de vitesse. » C'est assez prémonitoire.
Oui, c'est drôle. Ce texte-là, je l'ai partagé avec Pierre Letourneau. On l'a écrit ensemble, qui est un vieux camarade. Et je voulais faire juste une petite parenthèse. Quand j'écris avec Pierre Letourneau, on n'est pas sous poulet un vis-à-vis l'autre, là, mais vraiment pas. Alors, c'est pour ça que je travaille avec lui, parce que je peux lui dire ça, puis il me dit la même chose. Oui, même l'album au complet. Mais j'étais dans un état... vraiment bien, j'étais à ma campagne, j'ai écrit l'album devant le Montfeuille et tout, et puis il est sorti simplement, mais comme je disais tout à l'heure, il y avait une gestation là. Moi j'ai jamais fait un album sans avoir tout à l'intérieur. Je me suis jamais dit, bon là il est temps, faut que je fasse un album. Comme je vous disais, moi là, je fais ça comme ça vient.
Je n'ai vraiment pas vu passer le temps. Je courais plus vite que le vent. Aujourd'hui tout s'éclaire, je me lance un SOS. Adieu l'homme d'hier. Changement de vitesse. Et là je m'envole sur un air de guitare. Quelques notes au hasard, sans armes ni fanfare. Et là je décolle. Je suis heureux, je pars. Je coupe les amarres, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. J'en ai reçu des coups, de l'âme jusqu'au cœur. J'ai plié les genoux, j'ai pleuré, j'ai eu peur. Je veux changer de voix. Croire au ciel et en moi, rejeter de la main le refrain quotidien. Et là je m'envole sur un air de guitare. Quelques notes au hasard, sans armes ni fanfare. Et là je décolle, je suis heureux, je pars. Je coupe les amarres, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard.
Dans le rang, cœur lourd et yeux baissés, je vivais comme ces gens brisés, stressés. Je défie à présent, défie les vents contraires, et librement je prends les chemins de travers, et là je m'envole sur un air de guitare. Quelques notes au hasard, sans armes ni fanfare. Et là je décolle, je suis heureux, je pars. Je coupe les amarres, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard.
Je m'en vais, je décolle, je me sors
de cet épais brouillard.
Je m'envole, je décolle, je console.
Il n'est jamais trop tard.
Je m'envole, je décolle, je me sors
de cet épais brouillard.
Je m'envole, je décolle, je console.
Il n'est jamais trop tard.
Je m'envole, je décolle, je me sors.
Il n'est jamais trop tard. Luc Cousineau, extrait de l'album Le gars là, dernier album. Vous en avez produit un certain nombre, 17, 18?
18.
18,
ouais.
C'est quand même une belle production. Est-ce qu'il y a des productions parmi tous ces albums auxquels vous êtes particulièrement attaché?
Bien, il y avait longtemps que j'avais tout écouté l'œuvre. Puis là, dernièrement, on vient de remasteriser tous mes disques à partir du début. Là,
donc, vraiment. On pourra mettre la main là-dessus, là, prochainement.
Oui, là, on a l'intention de faire un coffret, enfin, comme un intégral. Là, oui. Je crois que ça sera un intégral.
Il y a l'intégral Bach, l'intégral Mozart, il y aura l'intégral Luc Cousineau.
Oui, mais dans la chanson. Mais je sais pas, parce que je le vois sur les Facebook, je le vois, les gens sont intéressés à ce que je faisais dans les années 70. Et... on vient de travailler, parce que sur l'album, Lise est venue chanter sur deux chansons. Et j'ai diffusé ça sur Facebook et c'est incroyable les réactions que j'ai eues de la part des gens qui se souviennent, qui sont plus jeunes que moi ou de mon âge, mais qui se souviennent de ce qu'on faisait à cette époque-là.
Et il y a eu beaucoup de groupes, parce qu'on a évoqué tantôt les Alexandrins, c'est un duo, il y a eu plusieurs duos. Dans les années 60, il y avait les groupes, il y avait aussi les duos.
Ouais,
on pense dans Music Country, Jerry et Joanne, il y a eu Nicole Martin et Jimmy Bond.
Ouais.
Il y a eu aussi Jim et Bertrand.
Jim et Bertrand, oui.
Bon, il y en a eu plusieurs. Puis il y a eu un autre groupe, peut-être vous souvenez-vous, des Carrick.
Oui, absolument.
Là, on commence à peut-être explorer la musique dite traditionnelle, les vieilles chansons françaises. Les Carrick l'ont fait à leur manière, de façon plus moderne,
ouais.
Avec une chanson qui a connu aussi un grand succès. Si je vous dis Au chant de l'Alouette.
Ah ben oui, évidemment, tout le monde connaît ça.
Alors, on va écouter les Carrick, Au chant de l'Alouette. Un mot cependant sur cette époque-là. Le souvenir le plus vivant que vous gardez de l'époque, de ce qu'on pourrait appeler l'époque jeunesse d'aujourd'hui?
Ah ben, évidemment, pour moi, c'était la liberté d'écriture. On s'astreignait à rien. Moi, dans mon cas, là, j'écrivais la longueur des chansons que je voulais. Ça, c'était assez formidable. Et d'être allé, justement, parce qu'on faisait partie des chansonniers, nous. On était plus chansonniers. Et moi, je suis à la jeunesse d'aujourd'hui. Je trouvais ça important d'aller, les copains, aller chanter ça avec des petites danseuses derrière.
Ça se retrouve même sur YouTube.
Oui. Alors, c'était cette belle liberté là, d'écriture. On n'avait pas de... C'était démocratique à l'époque, l'écriture.
Et l'Amérique était jeune.
Oui, oui, mais tout est en devenir. Là. C'est une belle période. Là. Moi, je me souviens, fin des années 60, début des années 70, c'était extraordinaire. C'est fantastique. Peace and love et tout, là. Tu sais, c'était...
Alors, les Carrick, Au chant de l'Alouette.
On m'envoie aux chances pour y cueillir. On m'envoie aux chances pour y cueillir. Je n'ai point cueilli, j'ai cherché des nids. Au chant de l'Alouette, je veille. Je m'endors.
Je m'endors au chant de l'alouette, je veille.